Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Et ce week-end, les experts se poursuivent. Bienvenue si vous venez d'arriver chez nous. Vous le savez, le samedi de 6h à 10h, les meilleurs experts sont là. Tout à l'heure, la forme, la santé avec le docteur Christian Riquia. Raphaël Grabi sera là pour la tech aussi entre 9h et 10h, mais dans l'immédiat. Et après le jardin, c'est la maison. Et c'est avec Christian Pessero. Bonjour Christian.
Rebonjour François.
Comment trouver un bon artisan pour faire des travaux dans sa maison? Tous les conseils tout à l'heure.
Tous les conseils tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas à appeler nous si vous avez un projet de travaux. Si vous ne
refaire sa salle de bain. Voilà, mon papa s'apprête à refaire sa salle de bain.
Peut-être oui, j'ai appris ça parce que.
Vous appelez.
J'ai mes informations, mes informateurs, même encore.
Bravo.
N'est-ce pas?
D'ailleurs, parce que de quand ça fait loin.
Oui, mais n'est-ce pas? Mais alors, attendez, je fais l'extra lucide là. Je parie que vous avez un chauffe-eau dans la salle de bain.
J'ai un chauffe-eau dans la salle de bain, bravo, je ne peux rien vous cacher. Mais vous êtes vraiment un médium, c'est impressionnant. Donc voilà, mes salles de bain, ça peut être la chambre, ça peut être la cuisine, bien sûr, enfin toutes les pièces de la maison à rénover, à refaire. Vous avez des questions pour bien choisir un bon artisan. Dès maintenant, 3216, l'appli RMC, Direct Studio. On retrouvera aussi notre rendez-vous avec le conseil de Christian, l'empreinte carbone. Vous nous expliquerez ce que c'est
justement, oui, ça va dans le domaine de la maison. Plus important, notamment pour l'octroi des subventions, des aides. On va voir, c'est une notion qui, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, moi, un petit peu, parce que, comme je vous l'expliquais,
on le saura,
n'est-ce pas?
Mais c'est vrai que c'est un peu flou encore, hein, cette histoire d'empreinte carbone. On en parle souvent dans l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Oui. Jean-Luc qui sera là d'ailleurs hein, demain entre 7h et 10h, 3 heures d'auto en direct. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts, vous le savez, avec en priorité vos questions. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Vous voulez joindre Christian via le smartphone. Profitez-en, c'est possible, c'est gratuit. Vous nous laissez votre question. Surtout, n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Comme ça, on peut vous rappeler dans la foulée. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence avec... Eh bien, tiens, c'est Christian.
Justement. Très bien.
Je me sens un peu seul, là.
N'est-ce pas?
Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
Bonjour, Christian.
Christian de l'Ardèche, qui rencontre Christian de Caen.
Danonnet.
Ah, très bien.
Très joli.
Et on vous écoute, Christian. Que vous arrive-t-il?
Voilà, c'était la semaine dernière, vous avez parlé d'isolation par extérieur.
Oui, l'ITE.
Voilà. Et par contre, moi, j'ai une maison à ossature bois.
Oui.
Et j'ai fait des demandes et on nous a dit exactement... oula, non, ça, c'est pas possible.
Ah. Qu'est-ce donc, que vous... Comme vous dites, on a fait des demandes. Et auprès de qui? Qui vous a dit c'est pas possible?
Des artisans, parce qu'on a vu sur Internet, donc sur Facebook, on a fait des demandes, et tout de suite, on nous a dit, oulala, non, c'est pas possible sur ossature bois, il n'y a que sur béton.
Non, attendez. Heureusement qu'on peut faire des ITE sur autre chose que des maisons en béton, sinon ça serait un petit peu dommage. Donc, de toute façon, pour commencer, lorsque vous envisagez aujourd'hui des travaux d'isolation qui vont en plus appeler des aides qui, on l'apprendra la semaine prochaine, je pense, vont être en plus renforcées, vont être étendues au-delà de ce qui est aujourd'hui en matière notamment de conditions de revenus. Oui. Alors, commencez par une chose. Vous appelez un conseiller fer.fr, c'est le site qui a été développé par l'ADEME et c'est tout un dispositif qui permet donc d'avoir des conseillers objectifs. Je dis pas que les artisans ou autres ne sont pas toujours objectifs, hein. Mais en tout cas là, c'est dégagé de tout aspect financier. Donc c'est la première des choses. Vous aurez un conseil. Alors après, vous me posez la question. Il y a aucune raison de ne pas faire une ITE avec une maison bois, j'imagine, elle a déjà quelques années, je crois, vous m'avez dit.
Oui, tout à fait. Oui, elle est de 75.
Bon, elle est de 75, donc effectivement, elle a besoin d'un renforcement de l'isolation. Là, il y a deux solutions. Moi, je vois deux solutions qui se profilent. Soit on fait une ITE tout à fait classique, c'est-à-dire, j'imagine, vous avez un parement qui ressemble à du crépi, on va dire, c'est ça?
Voilà, c'est bon. Ça, oui.
Eh bien, on traite ça exactement de la même façon que n'importe quelle maison avec un isolant. Alors, Alors, si vous souhaitez être dans le domaine écolo, ben vous aurez quelque chose qui sera plutôt un isolant d'origine végétale, biosourcé, etc. Sinon, eh bien, vous mettrez une couche de polystyrène, une qui est extrêmement efficace, mais évidemment, c'est moins vertueux, on va dire, c'est moins politiquement correct, hein, pour simplifier. Oui, et puis, donc, ça, tout simplement, la couche, ensuite, un treillis ou treillage pour c'est mieux que le treillage d'ailleurs que le treillis
parce
que
le treillis c'est dans d'autres circonstances,
c'est au niveau de l'armée, ils isolent avec des treillis, mais ça c'est trop chaud. Vous mettrez l'armée, et puis après on refait un enduit et puis un crépi éventuellement, enfin la finition que vous voulez. Soit alors une autre solution qui consiste à reposer des solives ou des chevrons sur les chevrons existants, donc on repère le chevronnage existant, on repose dessus et puis on refait la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire on remet de l'isolant entre les chevrons, et puis après on remet un panneautage, et puis sur le panneau on met la finition qu'on souhaite. Je vois absolument pas. Alors s'il y a, justement, puisqu'on parle d'artisan ce matin, s'il y a un artisan qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, eh bien qui nous appelle, en plus il a son président qui sera là, donc on pourra discuter avec. Voilà, moi je... mais pour commencer, allez sur faire.fr, vous aurez la possibilité d'appeler un conseiller et qui vous donnera son avis, parce que
parce que moi je voulais vous demander, donc soit par plaque, soit par lame, est-ce que c'est possible? Vous savez les lames en PVC?
Les lames en PVC, non, ça n'est... Alors attendez, ça, c'est... vous me parlez du bardage, là.
Voilà.
Mais le bardage, il vient se placer après, c'est-à-dire ça. Après. Vous pouvez avoir du crépi, vous pouvez avoir du bardage, vous pouvez avoir quantité de finition, mais c'est la face. Bon, alors il existe un système, alors je ne sais pas, là, par rapport à la maison bois, je ne me prononcerai pas complètement. Il y a aussi des lames des lames isolantes, qui sont des lames en alu, avec à l'intérieur de la mousse de polyuréthane injectée, ça c'est aussi un système intéressant, mais je serai réservé sur le saturbois. Là il faudra avoir un c'est Miral qui fait ça, et donc faudrait le questionner par rapport à la maison de bois.
D'accord.
Voilà, merci, Christian.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci.
Bon, entre Christian, ça va. Hein,
vous avez vu, le courant passe.
Ah
hein.
Oui, le courant passe sans aucun problème. Vous voulez, alors, vous appelez pas Christian, mais vous voulez poser une question à Christian, c'est possible.
Vous pouvez quand même. Hein.
Ça marchera aussi, je vous le garantis. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Tout à l'heure, je vous rappelle qu'on évoquera les artisans. Comment choisir un bon artisan pour faire des travaux à la maison? Vous avez des questions, des projets. N'hésitez pas, 32-16... via Direct Studio sur votre smartphone. Et dans l'immédiat, on retrouve le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Voilà, attention. Aïe, aïe, aïe.
Heureusement que j'ai mis un casque. Parce que vous savez, sur les chantiers, il faut toujours mettre un casque.
Oui, et avec en plus le parpaing qui tombe, là, on entend bien.
Justement, pour les pieds, on met des chaussures de sécurité, en bout renforcé.
Toujours. L'empreinte carbone.
Ah oui, l'empreinte carbone. On n'arrête pas d'en entendre parler. On parle aussi de construction bas carbone, de rénovation bas carbone. Je suis pas sûr que ce soit évident pour tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai décidé donc d'en parler ce matin. Alors, globalement, il s'agit de quoi? Il s'agit de mesurer les émissions ou les rejets de gaz à effet de serre, principalement le CO2 dans l'atmosphère que génère donc la construction, la rénovation, etc. Alors l'objectif, c'est de les réduire le plus possible pour protéger l'environnement et plus généralement la planète. Alors on peut calculer les émissions de gaz à effet de serre d'une voiture, d'une maison, plus généralement d'une personne par habitant, et on voit qu'en France c'est quand même pas terrible, hein, parce que ce qu'on appelle donc l'empreinte carbone, ça s'exprime en tonnes équivalent CO2 E. Alors, parce que ça regroupe tous les autres gaz à effet de serre.
Ah oui.
Mais on sait que le CO2, c'est quand même ce qui marque le plus. Alors, faut quand même savoir que l'ADEME a mesuré tout cela et a constaté que chaque Français produit 12 tonnes de CO2 E par an.
Chaque Français.
En vivant, simplement. Et il devrait en produire 10 fois moins.
Vous pourriez en faire un peu moins, Christian. 12 tonnes, c'est beaucoup quand même pour vous.
Vous avez entendu là ? 10 fois moins, il devrait en produire.
Il pourrait en faire 10 fois moins.
Il devrait en produire 10 fois moins. Alors, pour réduire l'empreinte carbone de chacun, il y a plein de solutions. Alors, ça se rapproche, en gros, des gestes pour faire des économies d'énergie. C'est quoi ? C'est baisser le chauffage, c'est réduire sa consommation d'eau, c'est pas laisser les appareils en veille. Tout ça, on en parle sans arrêt. C'est réduire les déchets. C'est évidemment prendre son vélo plutôt que sa voiture. Ça va de soi. Tout ça, vous connaissez. Mais pour savoir si vous allez pouvoir réduire aussi l'empreinte carbone d'une maison, c'est nettement plus compliqué que les émissions directes de CO2 dont je viens de parler. Parce que là, on parle de quoi ? On parle de l'ensemble des émissions de CO2 d'un bâtiment, mais tout au long de son cycle de vie. Tout au long de son cycle de vie. Ça veut dire qu'on intègre dedans
sa conception,
la conception, la construction, l'exploitation, la rénovation, et jusqu'à la fin de vie,
la destruction.
C'est-à-dire la démolition et le recyclage de ces composants. Alors, on prend donc en compte à la fois la production directe de CO2 de la maison, j'y en parlais à travers le comportement qu'on peut avoir, mais aussi le rafraîchissement, l'éclairage, la consommation d'eau, etc. Et l'impact des matériaux qui ont servi ou qui serviront à sa construction. Alors, évidemment, une maison bois, par exemple, ça aura une empreinte carbone plus faible qu'une maison en parpaing. Ou qu'une maison en briques pour laquelle il aura fallu beaucoup de chaleur, par exemple, pour sa production. De même, si vous avez une pompe à chaleur dans une maison, eh bien, vous aurez une empreinte carbone qui sera plus faible que si vous avez un chauffage au fioul. Alors, en construction comme en rénovation, l'objectif, eh bien, c'est d'avoir une maison à empreinte, on va dire, écologique, la plus faible possible. Alors, ça sera identifié, c'est identifié. J'en ai déjà parlé une fois. C'est le label E+C-. C'est-à-dire E pour l'énergie. Mmh. Et on arrive à l'énergie positive. Vous savez que on arrive à des maisons maintenant qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et c'est moins pour la réduction donc de la fameuse empreinte carbone. Tout ça dans une échelle de 1 à 4. Je reviendrai d'ailleurs dans une prochaine émission sur ce qu'est la notion d'énergie positive d'une maison. Alors, tout ça, ça paraît un peu théorique. On se dit oui, mais vous allez voir que dans les années, dans les mois qui vont venir, dans les années, ça va être le critère essentiel dans le cadre notamment de la rénovation et pour obtenir des aides. En gros, ça va devenir une sorte de référentiel universel.
C'est plutôt bien, à votre avis, ça ?
Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, mais c'est très compliqué quand même à calculer, très compliqué à mettre en œuvre. Et puis, je parle sous le contrôle du président de la CAPEB, ça va être très difficile à appliquer pour les entreprises et notamment pour des petites entreprises. Il va y avoir là une nécessité de formation absolument considérable pour mesurer de façon aussi précise que possible ce genre d'impact.
Vous parliez d'aide tout à l'heure à la rénovation. On s'attend à de bonnes nouvelles là bientôt.
Oui. Oui, semaine prochaine, normalement.
Semaine prochaine.
Voilà, donc je pense que je serai amené à en parler.
Donc ça veut dire que finalement, il ne faut pas trop se presser si on doit entamer des rénovations.
Je pense que de toute façon, ça va aller très vite.
Le timing est plutôt...
Très vite, ça va être de toute façon sur la loi de finances 2021, donc on est bientôt en septembre.
Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux entamer des rénovations maintenant ou plutôt en 2021 ?
Il faut continuer, parce que sinon on va avoir un trou et ça, c'est pas bon, donc il faut continuer à relancer les travaux de rénovation.
J'aime bien poser des questions embêtantes comme ça. Ouais. Là, vous êtes vous
rougissez un petit
peu.
Non, je suis plutôt embêtant d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Ça, tout le monde le dit. Donc,
mais on en parlera avec le président de la CAPEB tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai que c'est une question légitime.
Bien sûr.
Si vous me dites, tiens, on va avoir de bonnes nouvelles et des aides encore plus importantes, peut-être que ça vaut le coup de différer ces travaux.
On va voir aussi dans les déclarations à partir de quand ça va être impactant, quand ça va être appliqué.
Christian, on a plein de questions à poser à notre invité.
N'est-ce pas?
Un instant, Jean-Christophe répond. Donc, le président de la CAPEB, comment trouver un bon artisan pour faire des travaux dans sa maison? On va accorder pas mal de temps à ce rendez-vous. Vous avez des questions sur ce sujet? Vous vous apprêtez peut-être à rénover votre maison, votre salle de bain, votre chambre, votre cuisine, votre salon. N'hésitez pas, 3216 dès maintenant, expliquez-nous votre projet. L'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone, si vous nous joignez via le smartphone. Comme ça, on peut vous rappeler dans la foulée. A tout de suite.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Ce ponton là-bas.
Oh, waouh.
Quel lit, construction.
Votre maison.
Attends, je vais tonneuse, please.
C'est tellement romantique, tes codes construction.
Un artisan aime à savoir que son travail est apprécié.
Vous êtes carreleur. Vous carrelez.
Très bien.
François Sorel.
Mais vous parlez trop. Quand je vous ai dit s'il en reste, vous les mettrez dans la chambre. Je parlais des cartons, c'est-à-dire on prend les cartons, on les met dans la chambre.
Christian Pessé.
Il m'a carrelé la moitié de la chambre. C'est-à-dire que j'ai moitié carreau et derrière, ça part tranquille en moquette.
Compagnon musicien, ici tout est fait mal. Il façonne.
Alors heureusement, les artisans carrelent rarement une chambre à moitié.
Oui, c'est. Ben, ça dépend, ça peut être à mi-hauteur.
Oui. Ah. Bien sûr. Enfin, carrelage et moquette, c'est un peu bizarre quand même.
Oui, Muriel c'est Robin, le problème de la moquette, mais on pose plus beaucoup de moquettes au mur maintenant. Hein.
Non, ça c'est terminé.
Il y a eu une grande, oui, c'est vrai, une grande époque. Un moment, hein, ça a été, c'était un peu idiot. Mais
quand vous étiez jeune.
C'est-à-dire il y a quelques années.
Il y a quelques années, quelques
et puis,
mois.
Même encore, il y en a qui le font. Hein.
C'est votre maison sur RMC. On est là jusqu'à 8h avec Christian Pessé. Et en compagnie de notre invité, on va vous donner des bons conseils pour trouver le bon artisan pour faire des travaux.
Voilà, nous sommes avec Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. Bonjour. C'est quoi la CAPEB?
À votre
Je devais le faire moi-même, excusez-moi, je ne savais pas.
Nous
avons notre artisan du bouton qui est de l'autre côté.
Merci beaucoup à l'artisan du bouton de m'avoir ouvert le mien. Oui, non, la CAPEB est une organisation patronale qui défend en fait l'intérêt des artisans, des TPE du bâtiment, et qui leur permet de ne pas rester seuls dans leur coin, à chercher les bonnes informations. Donc nous défendons, nous représentons, et puis aussi on essaie de promouvoir la qualité artisanale, parce que comme je le sens bien depuis ce matin, vous allez dire que la qualité de l'artisan est primordiale et reconnue.
Hein. C'est combien d'adhérents, la CAPEB?
C'est 57 000 adhérents actuellement, qui espérons augmenter encore dans l'avenir.
On va dire que ça pèse, quoi.
Oui, bon, ça pèse.
Quand même. Donc, il y a pas mal de gens qui doivent vous écouter. On a déjà gagné 50 000 auditeurs ce matin.
J'aimerais bien qu'on gagne des questions.
Profitez-en.
Si vous avez des questions, si vous avez des projets de rénovation ou de travaux à la maison, appelez-nous dès maintenant 3216, l'appli RMC Direct Studio, avec votre numéro de téléphone.
Ne pas oublier. Ma première question, ça sera peut-être de dire, quand on veut entamer une rénovation, est-ce qu'il faut le faire par étape, par corps de métier, ou est-ce qu'il vaut mieux envisager du global ?
Dans une vie absolue et parfaite, bien sûr qu'une rénovation globale elle est souhaitable. Mais je pense que, comme dans chaque ménage, on fait toujours les chantiers étape par étape. Donc c'est pour ça que nous défendons auprès des ministères des parcours de rénovation qui permettent justement à un ménage de pouvoir étaler dans le temps la somme des investissements qui sont nécessaires pour pouvoir mettre le ménage et l'habitat à hauteur.
Alors, ça veut dire que la notion de bouquet de travaux qu'on a vu il y a quelques années, ça n'existe plus, on le met de côté, ça a échoué. Hein.
Vous êtes un spécialiste, vous avez vu que ça a bien marché. Bien évidemment, on a entendu dans la Convention citoyenne qu'on parlait beaucoup de rénovation globale, mais on sait très bien que ça n'existe pas. Nos artisans qui nous écoutent et les particuliers savent très bien qu'ils ne vont pas partir à l'hôtel pendant un mois et demi pour rénover.
Oui, parce que c'est ça, ça suppose de vider la maison. Ça existe quand même. Il faut le dire, il y a des spécialistes du sujet. Ça veut dire que si vous avez une possibilité d'être logé ailleurs, chez les enfants par exemple, ou parce que vous avez une autre résidence par exemple secondaire, faut le dire quand même, c'est l'idéal. Si on peut,
c'est l'idéal.
En tout cas, le projet, lui, il doit être conçu dans sa globalité. On est bien d'accord.
C'est l'idéal, mais je ne suis pas sûr que vous ayez les objectifs atteints sur le nombre de rénovations nécessaires à la fin de l'année.
C'est sûr. Alors, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Comment on peut trouver, comment on peut chercher d'abord et trouver ensuite un bon artisan. Alors, vous allez me dire qu'ils sont tous bons, mais on sait bien que c'est comme dans tous les métiers, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Alors, c'est quoi le critère? C'est les certifications? On parle beaucoup encore du RGE. C'est quoi?
Le premier des critères, me semble-t-il, il existe depuis des années. Quand on a un bon artisan dans la région, c'est le bouche à oreille. Pour ma part, j'ai repris l'entreprise artisanale de 1913. Je suis artisan électricien à Toulon.
Oui.
Et c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Je veux dire, quand vous avez vous-même une problématique de genoux, d'épaule ou de divorce, vous n'allez pas prendre dans l'annuaire le premier avocat ou le premier chirurgien. Donc vous allez voir autour de vous un conseil de qui a réussi une bonne opération de la prothèse ou qui a réussi son divorce. Et c'est exactement pareil pour l'artisan. Nous travaillons sur la durée, les artisans, nous sommes une économie de proximité, donc quand on rate un chantier, et ça peut arriver, c'est une contre-publicité et il faut qu'on en rate le minimum.
D'accord.
Donc du coup, c'est vraiment pour nous le premier TripAdvisor, c'était le bouche à oreille. Et ça continue, notamment sur les sites de mise en relation.
Okay. Donc, mais attendez, voilà. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est quand même pas forcément simple. On arrive dans une région, mm-hmm. on achète une
oui,
maison.
Comment ça on connaît pas forcément des voisins qui vont nous dire tel ou tel artisan est bon.
Oui. Il y a quand même des critères. Alors, les critères, c'est quoi au niveau notamment de ce qu'on appelle les certifications, les labellisations, c'est quoi?
Après, si vous avez engagé des travaux qui sont spécifiques, et vous avez parlé tout à l'heure de MaPrimeRénov, sur des aides, donc toute la partie aidée, là, il faut être certifié pour pouvoir faire bénéficier à son client de l'aide.
Quoi,
donc,
c'est le RGE.
C'est le fameux RGE qui était d'abord Grenelle, puis Garant, donc le reconnu garant de l'environnement. Et ça, c'est des spécifications que l'artisan va passer dans des domaines de travaux.
Alors, il ne faut pas se le cacher, ça a été quand même très décrié ces derniers temps. Vous voyez que le RGE, c'était un... on a vu des entreprises qui ont six mois d'inscription au registre du commerce ou de métiers et qui sont RGE, on s'interroge quand même, non ?
C'est pas le RGE qui est tellement décrié, c'est surtout l'application et comment on s'en sert. C'est-à-dire que reconnaître une qualification sur un domaine de travaux, je trouve ça plutôt valable.
Oui.
Mais après, c'est des entreprises qui sont en capacité dans le modèle actuel, et c'est pour ça que nous, on prône une façon différente de faire du RGE, c'est qu'actuellement, avec un RGE par entreprise, vous avez 300 salariés, vous êtes qualifié.
Oui, c'est... Et
voilà, donc ça veut dire que...
Mais en plus, c'est par corps de métier, c'est-à-dire...
Par domaine d'activité, on va dire.
Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui est RGE dans l'isolation, mais il ne le sera pas dans le chauffage, et s'il fait l'ensemble des travaux, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là?
Mais il faut faire par domaine d'activité, c'est évident, mais vous avez la capacité, et on a vu la contre-publicité qu'on a eue sur les aides et les effets d'aubaine et les entreprises qui sont montées, notamment sur l'ITE, vous en parliez tout à l'heure, il est facile actuellement de créer une boîte commerciale avec des commerciaux qui téléphonent, un RGE par domaine d'activité et derrière des sous-traitants qui, eux, pour le coup, ne sont pas qualifiés. Donc nous demandons, nous, à ce qu'il n'y ait pas de sous-traitance à outrance et qu'il y ait à minima un seuil de nombre d'employés qualifiés dans l'entreprise.
C'est ça.
Sinon, il est trop facile, vous.
Ouais. Vous avez 300 personnes, comme 300 vous le disiez, vous avez un RGE.
Et roulez jeunesse, vous faites le business. Et pour nous, artisans, qui sommes donc des entreprises à taille humaine, de 2 à 10, 15, 20 salariés, nous ne travaillons pas comme ça. Donc, du coup, nous demandons à ce qu'il y ait un seuil minimum de compétences dans l'entreprise.
Christine est avec nous au 32-16. Une question qui, à mon avis, est pour vous.
Hein, est pour
à la
moi,
fois
oui.
Christian, mais aussi Jean-Christophe. Bonjour Christine.
Oui, bonjour messieurs.
Oui,
bonjour. Christine
Dugard. Voilà, donc je vous appelle Dugard, oui. C'est un village Kessargue. J'habite une villa qu'on a fait construire il y a 35 ans maintenant.
Oui.
Et depuis 2-3 ans, nous avons les toitures, en fait, qui sont très habitées par du lichen, par des mousses. Donc je suis en permanence sollicitée par des personnes qui passent régulièrement et qui me proposent donc un nettoyage du toit avec certains produits, plus ensuite une application d'un isolant ou d'un voilà quelque chose qui va éviter
d'un imperméabilisant.
Oui. Voilà.
Vous en parlez souvent, ça, Christian.
Et donc, si vous voulez, donc je me posais la question, est-ce qu'il est vraiment très utile de faire nettoyer les toitures et de les faire traiter pour éviter que les tuiles deviennent toutes poreuses et que ça crée en fait des micro fissures qui vont abîmer ensuite.
Je vois que vous avez eu des bons arguments qui vous ont été avancés. Alors bon, écoutez, je vais très vite répondre sur le plan technique et puis ensuite on pourra parler sur le plan d'entreprise. Parce que la question que vous posez induit d'autres interrogations sur la fiabilité des entreprises. Premièrement, les mousses, les lichens, à 95% n'abîment pas les tuiles. Point barre. Donc ça, c'est la première des choses. Une toiture, elle ne va pas devenir poreuse parce qu'il y a de la mousse dessus ou un peu de lichen. Normalement, d'ailleurs, les tuiles ne deviennent pas poreuses. Les fabricants de tuiles, notamment de tuiles de terre cuite, garantissent leurs produits souvent pendant 30 ans. Et même souvent, lorsqu'il y a des pépins après, les tuiliers remplacent souvent les tuiles parce qu'ils savent que de toute façon, ça serait peut-être un problème de fabrication. Donc le premier premier point, c'est ça. Alors après, c'est une question esthétique. Si vous trouvez que c'est moche et que vous voulez avoir à nouveau une tuile toute neuve, évidemment, vous pouvez faire un nettoyage de tuile. Mais là, il y a à ce moment-là, vous savez, les couvertures, c'est qui? C'est les couvreurs. Hein. Donc, adressez-vous déjà à un couvreur et ne cédez pas aux itinérants qui vont vous mettre de la poudre de perlimpinpin dans de la flotte pour nettoyer votre toiture et qui, dans le pire des cas, vont prendre un nettoyeur haute pression. Et là, pour le coup, vos tuiles vont devenir poreuses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous propose l'imperméabilisation. Parce que les traitements qui sont faits généralement peuvent risquer de rendre les tuiles poreuses. Alors après, la problématique, elle est-ce que je peux faire confiance à des entreprises non identifiées? Je vais encore me prendre des mails parce qu'à chaque fois que je lutte contre la camionnette blanche, c'est-à-dire sans identification, on me dit, mais vous comprenez, il y a même eu un argument extraordinaire qui m'a été avancé il y a quelques semaines, tout juste quelques semaines, c'est j'ai ma camionnette blanche pour pas me faire voler mes outils. Eh ben moi, je dis que là, c'est c'est du de funeste, là. Hein. La question qu'on peut poser donc au président de la CAPEB, comment on identifie une entreprise sérieuse, c'est-à-dire celle qui a pignon sur rue?
Je dirais déjà, pour l'auditrice, que quand on n'a pas de problématique par le toit, pourquoi recevoir un coup de téléphone d'une commercialisation, d'une démarchage? Déjà, le problème, moi déjà, quand je suis particulier, quand je me fais démarcher et que j'ai rien demandé à personne, je suis vraiment très sceptique. Après, que vous posiez la question vous-même après derrière de votre entretien de la maison, mais là, on est dans du confort, et non pas dans la partie énergétique.
Mais alors, donc, ma question, elle porte surtout, à votre égard, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut demander à une entreprise pour voir si elle est fiable?
Alors, on est contre le démarchage, déjà d'une part. Oui. Ça c'est clair dès le départ, puis on l'a dit au gouvernement. Et après, derrière, on peut aller voir ses qualifications. Ce que vous faites jamais, vous particulier, et je vous incite à le faire de plus en plus, demandez les qualifications de votre artisan. L'artisan, logiquement, il est qualifié, il est assuré. Donc, ça fait maintenant plus de 35 ans que je travaille, j'ai peu de clients qui me demandent si je suis assuré, si j'ai ma décennale, si j'ai ma responsabilité civile, mes diplômes, mes qualifications.
Alors, les qualifications, c'est quoi, par exemple? C'est, par exemple, Calibat, des choses comme ça?
C'est des qualifications qu'on porte par Calibat ou par Califélec si on est électricien ou Calitener si on fait des énergies renouvelables. Mais c'est des qualifications, c'est notre CV, quoi, en fait. Et on a d'une part la clientèle avec qui on a travaillé et nos qualifications. Alors, je suis d'accord avec vous quand vous avez commencé par dire que l'artisan est qualifié de fait puisqu'il est inscrit au répertoire des métiers et il a un diplôme.
Oui, mais pas tous. Dans les itinérants comme ça, c'est pas forcément le cas. Il faut donc avoir le culot, je dirais, parce que c'est un peu ça. On est submergé, on est parfois fragile, on peut être âgé aussi.
Tout à fait.
Et donc là, il faut véritablement être capable de dire, démontrez-moi déjà. On peut demander un CABIS, ce qu'on appelle, qui permet l'inscription,
le numéro de SIRET, enfin, qu'on ait vraiment pignon sur rue. Ces camionnettes blanches qui tournent et qui, avec le démarchage, est souvent dans les boîtes aux lettres ou direct,
c'est le coup de sonnette.
Coup de sonnette, et sont souvent des pièges auxquels, naturellement, il ne faut pas répondre.
Voilà. Alors, et ne laissez pas rentrer les gens chez vous.
Jamais.
Jamais. Hein. Et surtout, alors, à plus forte raison, quand ils sont deux. Oui. Je ne vais pas faire de procès d'intention.
On peut discuter avec eux, mais à l'extérieur.
À l'extérieur de chez vous, vous demandez à ce moment-là les documents qui attestent de la régularité d'inscription aux organismes officiels, et puis aussi les qualifications, c'est ce que vient dire M. Repon.
Très bien, il est 8h-20, on va revenir dans un instant, on va encore poursuivre pendant quelques minutes.
On va parler de vie, parce que ça, c'est important.
Mais alors, voilà, combien de devis dois-je avoir avant de choisir?
Et qu'est-ce que comprend un devis? Parce que
quand on a des écarts de prix importants sur deux mêmes travaux? Oui. Ça arrive parfois. Oui,
tout à fait.
On parle de tout cela dans un instant, vous êtes concerné, vous voulez réagir, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, on vous attend, 8h-20, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Comment trouver un bon artisan pour faire des travaux dans la maison? C'est le sujet qu'on évoque ensemble avec Christian Pessé et notre invité Jean-Christophe Répond, qui est le président de la CAPEB, la Confédération d'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Christian, on a évoqué pas mal de sujets, on va dire, d'axes quand on souhaite refaire sa salle de bain, sa cuisine, sa chambre. On va parler des devis maintenant parce que c'est important.
Oui, on va parler des devis parce que je pense qu'on n'est pas toujours assez exigeant sur la fiabilité du devis. précise sur ce qu'il doit comprendre. Alors, c'est quoi un bon devis ?
Un bon devis, il y a des passages obligés, c'est-à-dire qu'il y a des obligations à mettre des référentiels, notre inscription au répertoire des métiers, nos assurances.
Ça revient à ce qu'on vient de dire sur le sérieux de l'entreprise.
C'est le premier travail du particulier.
Mais après le détail, parce que on a des devis qui font 5 pages, puis on en a d'autres qui font une demi-page écrite au crayon.
Mais déjà, il faut privilégier celui qui fait 5 pages.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faut voir le maximum de détails et d'informations.
Les mètres linéaires, le nombre de pièces, le prix individuel,
les
etc.
prix individuels et la différenciation quand des fois on ne fait pas naturellement nous artisans main d'œuvre et fourniture. Donc ça c'est essentiel aussi. Mais nous on est en capacité de pouvoir donner un prix et après l'expliquer. Et ça c'est essentiel aussi dans le dialogue que doit avoir le particulier avec l'artisan. C'est expliquez-moi s'il y a une différence de prix avec son concurrent. Pourquoi il y a cette différence de prix et qu'est-ce que vous me préconisez qui est différent.
D'accord. Plusieurs devis.
Plusieurs devis, oui. Voilà. Alors, en tant qu'artisan, j'aurais tendance à vous dire un seul.
Hein, oui, bien sûr.
Le mien, mais en toute sécurité, quand vous êtes particulier, faites faire au moins 2 devis.
Oui,
2 devis. Après, si vous avez eu l'intelligence de travailler sur le bouche à oreille, vous avez déjà logiquement votre parti pris, mais vous avez la capacité de faire une réflexion, puis ça peut vous amener à faire évoluer aussi votre offre de chantier.
Alors, moi, j'avais juste une question. On fait 2-3 devis, il y a des écarts énormes entre 2 devis.
Eh ben là, c'est à l'artisan qui doit avoir un conseil, qui doit vous expliquer pourquoi il est plus cher que son concurrent et qu'est-ce qu'il a préconisé. Il doit expliquer le détail de son prix.
Et logiquement, et s'il n'est pas convaincant,
S'il n'arrive pas à expliquer son prix, c'est qu'il y a une petite anguille sous roche. Mais si logiquement un artisan passionné et qualifié va vous expliquer pourquoi il a prévu ça, et souvent il y a un peu plus, il coûte un peu plus cher parce qu'il a prévu quelque chose. Il sait très bien, et notamment dans la rénovation, les pièges de la rénovation. Si vous faites pour tout artisan s'installant des prix basiques dans la rénovation, vous êtes sûr de perdre de l'argent régulièrement. Ouais. Quand vous tirez un trait au bas du devis à la fin, malgré que le particulier trouve ce devis très cher, vous perdez de l'argent en rentabilité, en prix de revient.
Est-ce que un devis doit être respecté à partir du moment où il est signé ?
Est-ce qu'ensuite la facturation doit être conforme au devis ou est-ce qu'on peut faire exploser le devis comment on le justifie ?
Je souhaite que les devis explosent, mais en accord avec le client. C'est-à-dire que si on a un devis initial qui est à tel prix, souvent on l'a vu souvent à la baisse parce qu'on avait un budget difficile, mais si dans les travaux, au fur et à mesure que vous avancez, vous faites des avenants et vous faites valider.
Voilà, vous l'avez dit, vous faites un avenant, c'est-à-dire que on peut pas venir vous dire, voilà, vous aviez 5000 euros de travaux, et puis arriver à la facture, on dit, ouais, mais il y a eu une augmentation de 6 de ça, ça en fait 6. Non. Ça, c'est pas possible.
On fait valider les étapes par le particulier. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait prévu X, genre, moi, j'allais dire des prises électriques, puisque je suis électricien. Si on a multiplié les prises électriques, il est pas compliqué de voir que le prix unitaire étant multiplié, vous allez,
mais est-ce qu'un bon artisan prévoit pas ce type de choses? En général, il sait que les clients vont peut-être demander une prise en plus, etc.
Oui, alors il y a 2 écoles. Moi, j'ai toujours prévu les trucs en plus, mais quand vous arrivez et que le client regarde que le prix final, il est difficile au départ de prévoir une installation au-delà de ce que a demandé le client. Il vaut mieux, dans un point de vue commercial, nous artisans, qu'on se fixe aux objectifs du client et puis derrière parler avec le client pour dire on peut augmenter le devis. Mais ça, c'est toujours un dialogue entre l'artisan et le particulier.
Olivier est avec nous au 32-16. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Vous m'entendez bien ?
On vous entend, on vous écoute.
Parfaitement.
Bonjour. Oui, en fait, j'ai une interrogation, en fait. Je souhaite refaire faire mon conduit de cheminée.
Oui.
Et je ne sais pas comment choisir l'artisan, en fait, parce que j'arrive pas à m'imaginer, en fait, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une machine, en fait, un outil qui détruit l'ancien conduit de cheminée de ma maison ? Et pour l'agrandir, ou alors est-ce que en fait l'artisan doit passer dans toutes les chambres, enfin dans les pièces où pour détruire complètement le conduit de cheminée et en repasser un nouveau.
Alors là, il y a d'abord une question technique et puis après vous allez,
et
j'imagine.
Après, oui, et après je me renseignais en fait. Est-ce qu'il faut prendre une assurance dommage d'ouvrage parce que je pense que c'est quand même important et
qui doit
un petit peu donc du coup.
Alors,
qui doit souscrire cette assurance?
Alors d'abord, l'aspect technique. Le mieux, si vous pouvez, si vous en avez la possibilité, c'est de faire passer un autre conduit ailleurs. Donc vous prenez, vous allez prendre un conduit métal qui va être isolé. Vous allez pouvoir le passer éventuellement à l'extérieur ou à l'intérieur. Et puis vous allez laisser tranquille votre ancien conduit. Parce que sinon, ça va vous faire...
On condamne en quelque sorte.
Oui, alors attention, il y a des conditions tout à fait particulières et précises pour la condamnation d'un conduit, c'est qu'il doit rester ventilé. Donc ça, il faut un vrai pro de la question. C'est-à-dire que vous avez en fait une petite grille qu'on met en pied du conduit. En clair, on ne bouge pas le conduit. On ne bouge pas en haut et en bas, quoi. Parce qu'il y a des problèmes de condensation. Effectivement, une assurance dommage ouvrage sur ce type de travail est souhaitable, mais est très difficile à obtenir, c'est tout, la problématique.
Quel est le coût d'une assurance dans ce cas-là, parce que ça doit être à peu près équivalent au coût d'un devis.
Non. Globalement, une dommage ouvrage, ça coûte, sur une maison entière, ça coûte entre 3 et 7%. En gros, je parle sous couvert du président qui m'écoute, là. Donc, sur un conduit, ça coûte pas très cher. Le problème, c'est qu'il va falloir pouvoir le trouver, et ça, c'est loin d'être évident. Ensuite, sur la fiabilité d'une entreprise concernant la fumisterie,
Mais avant de faire un devis comme ça, je pense que faut faire passer des artisans qui vous conseilleront sur réutiliser le conduit qui peut être réalisable.
S'il faut l'élargir, ça va être difficile, les conduits.
Là, comme ça, on peut pas dire, mais il faut regarder si c'est faisable. Sinon, le conseil de Christian de passer par l'extérieur et de refaire un nouveau conduit. Mais faites passer 2-3 artisans qui sont couvreurs, maçons.
Oui. Donc c'est la spécialité.
Voilà, et fumistes aussi, malgré le nom, qui sont compétents dans ce style de travaux.
Ça prouve qu'il y a eu quelques soucis dans l'histoire. Quoi.
Et après, c'est vrai que vérifiez ce que je disais tout à l'heure, qu'ils soient bien qualifiés et assurés pour ces travaux-là. Et puis derrière, vous pouvez, vous aussi, prendre la décision de faire
du c'est quand même extrêmement sérieux, parce que c'est la sécurité qui est en jeu là, avec le risque de monoxyde de carbone. Donc il faut vraiment une entreprise très, très sérieuse. Voilà, on a fait quand même un bon tour d'horizon, Monsieur Sorel. Hein.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Répond, pour toutes ces précisions.
Vous êtes président de la CAPEB.
Et bon retour à Toulon. Donc.
Merci beaucoup.
8h-10, il est temps de retrouver le coup de cœur de Christian. Et on va évoquer cette isolation étonnante d'un immeuble social à Paris.
Oui, à Paris, Paris Habitat, donc on est dans le social. Ça m'a paru très intéressant, c'est l'isolation extérieure, c'est-à-dire l'ITE, on en parlait tout à l'heure, d'un immeuble d'habitation collectif avec de la paille en plein Paris. Donc pour l'instant c'est un peu expérimental, je veux dire, mais je sais que là on a un pignon d'une maison. C'est un immeuble quand même R+7, hein, donc c'est quand même un immeuble conséquent. Vous pouvez aller le voir, il se trouve 132 rue de la Convention, c'est pas loin d'ici, c'est dans le 15e arrondissement de Paris. Alors l'opération a consisté à isoler thermiquement donc l'un des pignons d'un bâtiment. On a utilisé près de 500 bottes de paille sous enduit à la chaux et avec un soubassement en liège. Et donc, il n'y a aucune modification de l'esthétique de la maison. Le reste maison est pareil. Donc, il y a 39 cm d'épaisseur de paille, et puis il y a 4 cm d'enduit. Alors, la résistance thermique, vous savez, j'en parle souvent, le fameux R, il atteint R9, dont on sait, puisqu'il y a une partie qui, évidemment, c'est la construction elle-même, et la paille elle-même, c'est 7,5, ce qui correspond aux exigences thermiques de la maison passive pour l'ensemble. Le coût a été à peine supérieur à celui d'une ITE avec un isolant minéral, et l'expérience, qui est très positive, doit être étendue à une résidence étudiante entière, toute proche, également par Paris Habitat. Ils en sont très fiers. Je les ai eu au téléphone hier et ils ont dit très bien d'en parler. Je pense que c'est moi j'ai toujours été très très réticent sur des matériaux comme cela, parce que il faut d'un autre côté que ça soit extrêmement étanche. Il faut que ça soit très bien fait. Là encore, il faut une entreprise très qualifiée. On imagine que de l'eau qui tombe sur de la laine de verre ou de la laine de roche, ça la rend, elle perd en isolation, mais elle est pas dégradée. Évidemment que de l'eau qui s'infiltre dans de la paille, c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand c'est bien fait, on voit que ça marche avec un matériau biosourcé qui de toute façon n'aurait pas servi à grand chose. mais parfois
c'est pas
est purement éliminé.
Non,
c'est pas un coup de com. Pour savez, par Yabida, il a pas besoin de com pour son logement social. Hein. Bon, donc ouais. Ça serait une boîte, ça serait une entreprise qui ferait.
Oui, on peut.
Là, on pourrait dire qu'elle a un intérêt, mais Paris Habitat, je veux dire. Moi j'aime bien. Je vais suivre. Je vais aller voir cet immeuble. Je vais regarder comment c'est foutu. Et puis je vais suivre le chantier et le suivant. Et je vous en parlerai.
Christian, on se retrouve la semaine prochaine, 7h-8h, pour la maison. Vous le savez, bricolage, maison, chaque samedi sur RMC, 7h-8h. Et après la maison, c'est la santé. Bonjour Christian Ricciard.
Bonjour à tous.
Notre médecin qui est là.
Nous allons avoir un sujet capital. Bien sûr, savoir jardiner, c'est important. Savoir choisir et acheter ses produits alimentaires, c'est important. Mais savoir cuisiner, c'est capital, parce qu'on peut acheter des produits réellement bien faits sur le plan de la production. Si on ne sait pas les cuisiner,
on les massacre.
Et il va falloir très cher des produits qu'on tue.
Et il va falloir une bonne cuisine.
Et puis surtout
une bonne méthode de cuisson. Je sais que vous adorez le micro-ondes, par exemple, Christian.
Ah oui, c'est le micro-ondes, c'est vraiment le produit que j'enlèverai de toutes les cuisines du monde.
Pourtant, c'est bien pratique. Hein. Je suis sûr que même Christian PC s'en sert de temps en temps.
Bien sûr. Vous savez pas, autrefois, j'ai même fait une encyclopédie complète de cuisiner.
Sur le micro-ondes.
Au micro-ondes, 2400 recettes. Les donnerai et je les dédicacerai à notre médecin de service.
Allez, on revient dans un instant après la météo et les infos et Christian Akia qui sera là jusqu'à 9h. À tout de suite.